Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Margot Le Ridon et Rosalie Suc, mais aussi Hélène Lefrançois et Bertie Bourdon, réalisée par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par Julien Calvas. Quatrième et dernier temps de notre série consacrée au Parlement à la renverse. Après avoir évoqué lundi les assemblées britanniques aux prises avec le Brexit, mardi les alliances contre nature au sein du Parlement italien mais aussi dans le reste de l'Europe, hier les alternatives à la démocratie représentative, tournons-nous aujourd'hui vers l'ONU, l'Assemblée générale des Nations Unies qui réunit dans son hémicycle les représentants des 193 États reconnus de la planète, ouvre sa 74e session. Alors ONU, l'Assemblée des Nations a-t-elle une voix ? C'est la question qu'on se pose ce matin dans Culture Monde.
On a constaté le problème. On a constaté qu'il fallait qu'on protège notre avenir et on a constaté que les politiciens âgés n'allaient pas faire le travail pour nous. Alors on participe à des manifestations, des marches, des événements pour montrer qu'on ne va pas se laisser faire, que c'est quelque chose qu'on peut prendre en main.
Avoir Greta avec nous est très important. Elle est jeune, c'est une fille et elle est si pertinente. C'est important pour notre mouvement parce qu'elle nous représente, nous les jeunes. Je pense que ce sommet doit être une sorte de point de rupture où les gens réalisent ce qui est en train de se passer. Nous avons donc de grandes attentes à votre égard et à l'égard de tous les États membres.
La 74e Assemblée générale des Nations Unies s'est ouverte cette semaine à New York. Comme chaque année, les chefs d'État, ministres et autres diplomates vont faire le déplacement pour discuter des grands enjeux diplomatiques du moment. Mais ils sont attendus de pied ferme par des centaines de manifestants qui se retrouvent à l'occasion du premier sommet de la jeunesse sur le climat. Cette mobilisation citoyenne, elle révèle deux choses. D'abord, le fait que le climat, bien sûr, est devenu un enjeu diplomatique de premier plan, mais aussi que la société civile compte peser davantage sur ce Parlement du monde que sont les Nations Unies. De la promotion des droits de l'homme après la Seconde Guerre mondiale à la lutte pour le climat aujourd'hui, en passant par la décolonisation, le maintien de la paix ou encore le développement économique, les Nations Unies ont offert depuis 1945 un espace de dialogue. Mais bientôt, trois quarts de siècle après sa création, celle qui reste à l'heure actuelle l'organisation la plus proche d'un Parlement du monde, fait l'objet de nombreuses critiques. Alors que certains lui reprochent la lourdeur de son Assemblée Générale, la 193, d'autres s'en prennent au déficit démocratique de son Conseil de sécurité à 5 membres permanents. Et si la nécessité de réformer celui-ci fait consensus, la direction à prendre pour ce faire est l'objet de controverses depuis des décennies maintenant. Temple du multilatéralisme, l'ONU est aussi décriée par ceux qui voudraient y voir les citoyens davantage représentés, militant même pour la création d'une assemblée parlementaire issue de la société civile. Alors dans un système multipolaire qui n'a plus rien à voir avec le contexte de sa création, l'ONU peut-elle encore jouer un rôle au service du Concert des Nations ? Et d'ailleurs, comment fonctionne l'ONU ? Quelle peut être la place des ONG, de la société civile pour contrebalancer le pouvoir exclusif des États ? Chercher l'approfondissement du dialogue international a-t-il encore un sens à l'heure où, dans de nombreux pays, la tendance des peuples semble plutôt au repli ? Pour évoquer toutes ces questions, deux invités. Bernard Millet, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes président de l'Association française des Nations Unies, secrétaire général adjoint de l'ONU au maintien de la paix de 1997 à 2000. Donc c'est une maison que vous connaissez bien de l'intérieur. Bernard Millet, bonjour. Guillaume Devin, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur en sciences politiques à Sciences Po, auteur d'un certain nombre d'ouvrages. Je citerai par exemple Sociologie des relations internationales. Et puis apparaître dans quelques semaines l'Assemblée générale des Nations Unies, une institution politique mondiale, ça tombe bien, on va beaucoup en parler. Mais vous avez entendu ce qu'on vous a diffusé là. On a choisi précisément de ne pas vous faire entendre des voix de diplomates, de ne pas vous faire entendre la voix du secrétaire général des Nations Unies, mais celle de personnes de la société civile. Et c'est le bruit qu'on entend en réalité, là, qui nous vient pour le moment de New York. Alors je sais bien que pour l'instant tout le monde n'est pas encore à New York, mais en tout cas c'est assez symptomatique, me semble-t-il, d'une institution qui a peut-être un peu du mal à faire entendre sa voix, Bernard Millet.
Ou c'est peut-être le contraire. C'est-à-dire que la société civile se rend compte que c'est par cet intermédiaire qu'un certain nombre d'idées, de propositions, d'actions peuvent être conduites, quelles que soient les limites de l'Assemblée générale. À qui d'autre s'adresser pour traiter de problèmes mondiaux, notamment la jeunesse, et moi je suis tout à fait étonné, Guillaume Devin est prof à Sciences Po et pourra le dire, mais il y a de plus en plus dans toutes les universités, y compris les écoles de commerce aujourd'hui, des conférences type ONU, de simulation ONU, c'est-à-dire qu'il y a une demande essentielle de la part de la jeunesse d'intervenir. Alors sur la société civile, vous l'évoquez sur le problème du climat, c'est pas nouveau. La conférence de Rio 1992, il y a eu une association très forte et une implication très forte de la société civile pour pousser à l'adoption du texte de la conférence de Rio. Et les ONG droits de l'homme sont très présentes à Genève au sein du Conseil des droits de l'homme. Donc cette présence, elle est réelle et il y a une demande.
Guillaume Devin, vous confirmez, il y a cette tendance chez les universitaires, chez les étudiants, à chercher à imiter le modèle onusien ?
Il y a des exercices de simulation, mais enfin, bon, on peut en parler, c'est pas, à mon avis, l'essentiel de ce dont nous devons parler ce matin. Je crois que...
Non, mais parce que ça serait quand même une surprise, disons-le.
Oui, il existe de nombreux exercices de simulation qui se développent dans les universités, dans les instituts d'études politiques. Oui, tout à fait.
D'accord.
Mais ce que je crois surtout par rapport à votre question, c'est qu'il faut rappeler tout de même que l'expression organisation non gouvernementale et leur reconnaissance est liée à un article spécifique de la Charte des Nations Unies. C'est la Charte des Nations Unies qui, pour la première fois, a associé à une organisation politique à vocation mondiale des organisations non gouvernementales. C'est l'article 71. Il y avait une quarantaine d'ONG reconnues en 1946, et qui avaient le statut qui leur permettait d'intervenir. Il y en a plus de 4000 aujourd'hui.
Guillaume Devin, vous préparez un livre sur l'Assemblée générale des Nations Unies. Je vais vous poser la question de façon brutale. Ça sert à quoi une Assemblée générale des Nations Unies ?
Brutal. C'est pas si brutal que ça. C'est une question qui est tout à fait légitime. L'Assemblée générale n'est pas un parlement. Ce n'est pas un parlement. Un parlement, comme vous le savez, c'est une institution qui a des fonctions législatives, qui contrôle le gouvernement. Nous ne sommes pas du tout dans ce cas de figure, mais c'est une assemblée singulière. D'abord, c'est une institution mondiale qui représente, comme vous l'avez dit, la totalité des États reconnus, c'est-à-dire 193 États. Deuxièmement, c'est une assemblée qui fonctionne avec une règle procédurale démocratique, un État, une voix. Troisièmement, c'est une assemblée qui a une compétence générale, à une exception près, lorsque le Conseil de sécurité est saisi d'un différend, l'assemblée ne peut pas s'en saisir, mais pour le reste, l'assemblée peut parler absolument de tout, et de tout ce qui concerne la coopération internationale. C'est et pas... enfin, ouais. Quatrièmement, l'assemblée peut faire des recommandations.
C'est pas tout à fait ce que disait le général de Gaulle, qui était très critique à l'endroit de l'Assemblée générale de l'ONU. Il parlait de séances tumultueuses et scandaleuses, où il n'y a pas moyen précisément d'organiser un débat objectif. C'est ce qu'il disait en tout cas. Bernard Millet.
Oui, ça, je veux dire, il est évident qu'en fonction des intérêts, je rappelle que l'épisode de la guerre d'Algérie, puis l'affaire du canal de Suez, puis la décolonisation ont été un peu traumatisantes pour la France. Et il est évident qu'on n'a pas envie d'entendre des voix, des positions qui sont discordantes. Donc le discours est là. Ceci étant, et la France aujourd'hui explique hier comme aujourd'hui dans une... logique qui, depuis le général de Gaulle, François Mitterrand et maintenant, est celle de la défense du multilatéralisme. On sait que la place de la France sur la scène internationale, elle tient aussi au fait qu'elle est membre permanent du Conseil de sécurité et qu'elle peut, dans ce concert-là, jouer un rôle important et conserver sa position mondiale. Donc, je crois qu'il faut relativiser ce que pouvait se dire à l'époque.
Guillaume Devin, un État, une voix. C'est formidable, dites-vous, mais pour voter quoi ? Parce que quel pouvoir à l'Assemblée générale des Nations Unies ? L'entité qui prend les vraies décisions, c'est le Conseil de sécurité, c'est pas l'Assemblée générale des Nations Unies. Alors une voix, un pays, une voix, pour quoi faire ?
Alors c'est inexact ce que vous dites. L'Assemblée générale joue un rôle très important. Disons que, pour résumer, sans rentrer dans des détails qui ennuieraient les auditeurs, L'Assemblée générale a deux rôles, deux fonctions, une fonction politique et une fonction normative. La fonction politique, c'est que à l'Assemblée générale, on crée des organes qui sont absolument fondamentaux pour la coopération internationale. Du Haut Commissariat des réfugiés au Programme alimentaire mondial, en passant par le Programme des Nations Unies pour le développement ou le Programme des Nations Unies pour l'environnement, tous ces organismes ont été créés par l'Assemblée générale des Nations Unies. D'autre part, l'Assemblée générale a eu un rôle d'innovation, toujours dans ce rôle politique, tout à fait formidable. Ce que vous appelez, et ce que nous appelons aujourd'hui les opérations de maintien de paix, sans rentrer dans les détails, c'est une création de l'Assemblée générale des Nations Unies. À côté de ce rôle politique, l'Assemblée générale a un rôle normatif. Non pas en produisant directement des recommandations contraignantes, puisque je vous l'ai dit, les recommandations ne sont pas contraignantes, mais en produisant des traités qui vont être signés et ratifiés, et à ce titre, seront contraignants pour les États qui les auront signés et ratifiés. Pensez à la convention extrêmement nombreuses, la Convention sur la prévention et la répression du crime de génocide, le pacte sur les droits civils et politiques, des droits de l'homme, la Convention contre la torture, ou bien plus récemment, on en parlait à propos de la France et de son implication au Yémen, le traité du commerce sur les armes de 2014. Et alors, tout ça, c'est une production de l'Assemblée générale des Nations Unies.
Et alors, de quoi va-t-on parler lors de cette 74e Assemblée générale des Nations Unies? Vous avez eu la gentillesse de
alors,
venir,
pour faire plaisir,
de vin avec l'ordre du jour.
Et pour vous remercier de votre aimable invitation, je vous ai apporté l'ordre du jour de la 74e session de l'Assemblée. Alors, 150 points à l'ordre du jour, classés en 9 chapitres, promotion de la croissance économique, maintien de la paix et de la sécurité internationale, développement de l'Afrique, promotion des droits de l'homme, efficacité et coordination de l'assistance humanitaire, promotion de la justice et du droit international, désarmement, contrôle des drogues, prévention et lutte contre le terrorisme international et questions d'organisation. Donc vous voyez, il y a de quoi faire.
Donc là-dedans, il y a toutes les questions autour du nucléaire iranien, du nucléaire nord-coréen, etc.
Tout.
Bernard Millet.
Je veux dire que l'Assemblée générale, chaque année, c'est 3 mois de discussion rassemblant tous les États en 6 commissions différentes qui traitent de sujets pour l'une économiques et sociaux, l'autre des armements, l'autre droits de l'homme, autre les affaires juridiques, ce qu'a été le conseil de tutelle et donc toute la décolonisation et les affaires budgétaires. Donc il y a un menu chaque année qui est très important et il se doit en même temps de traiter de toutes les questions que Guillaume Devin a évoquées, mais aussi d'avoir une vision de tout ce qui se passe dans les autres institutions du système, les institutions spécialisées, les organes subsidiaires qui travaillent. Voilà, donc ça c'est cet élément qui intervient. Donc tout y remonte, ce qui se traite à la commission des droits, Conseil des droits de l'homme y revient, ce qui se traite au Conseil économique et social y revient, donc il y a toutes les questions. C'est vraiment le lieu où chaque année on fait le point de tout ce qui se passe sur la planète.
Guillaume Devin, si on regarde qui est à la tête aujourd'hui de cette Assemblée générale des Nations Unies, c'est un Nigérian qui s'appelle Tijani Muhammad Bande. C'est d'ailleurs simplement la quatrième fois qu'un pays africain a la présidence de l'Assemblée générale des Nations Unies. C'est important, ça vous donne une marge de manœuvre politique ou pas tellement?
Le poste de président de l'Assemblée générale est devenu un poste relativement important, prisé, symboliquement et politiquement. C'est vrai que ça permet d'orienter aussi un certain nombre de débats. C'est une présidence qui organise aussi les multiples élections à la présidence des commissions, pour les rapporteurs, etc. Donc c'est un poste qui est politiquement important. Symboliquement également, parce que, comme on vient de le dire, les délibérations qui ont lieu à l'Assemblée générale, elles ont un poids politique certain. Tout ne se passe pas au Conseil de sécurité. D'autre part, à l'Assemblée générale, vous parliez, on en reparlait tout à l'heure, un pays, une voix, tous les pays comptent. Il n'y a pas, c'est quelque chose que l'on entend très souvent chez les diplomates, et notamment les diplomates des grandes puissances. Il n'y a pas de petits pays à l'Assemblée générale des Nations Unies. Et ça, c'est important. Et c'est important pour doter cette Assemblée d'une légitimité internationale forte. Et pour terminer, je vous ai apporté un autre petit cadeau. C'est une citation du secrétaire d'État américain John Foster Dulles en 1955. Voilà ce que M. Dulles disait de l'Assemblée générale. L'influence qu'exerce le jugement moral des nations représentées ici confère à l'Assemblée un pouvoir réel. Aucun pays ne s'expose à la légère, à sa condamnation, avec tout ce que cela implique. Il eût été bien que les États-Unis poursuivent sur cette ligne, mais malheureusement, ils ont perdu la majorité à l'Assemblée générale des Nations unies dans les années 60, avec l'arrivée des pays nouvellement décolonisés, et malheureusement, ce n'est plus vraiment le discours des États-Unis.
Bernard Millet, s'il n'y a pas de petits pays à l'Assemblée générale des Nations unies, ce qui est certain aussi, c'est qu'il y a des grands pays au Conseil de sécurité qui fait tellement d'ombre précisément à cette Assemblée générale, avec évidemment ses 5 membres permanents, donc la Chine, la France, le Royaume-Uni, la Russie et les États-Unis, plus les 10 non permanents. Alors, on sait bien que les membres permanents ont cet outil fatal, cette arme fatale qui est le veto. Est-ce à dire, Bernard Millet, que les membres non permanents à l'intérieur de ce Conseil de sécurité n'ont finalement que très peu de poids, voire aucun en réalité?
Pas vraiment. Je veux dire que, si vous voulez, le droit de veto, c'est un droit qui permet de bloquer. Mais moi, je l'ai vécu lorsque j'étais à New York. Je suis arrivé à un moment, 1997, où tout le monde pensait que le maintien de la paix, c'était fini. Il venait d'avoir Srebrenica, il venait d'avoir le Rwanda, il y avait eu avant la Somalie. Tout le monde disait... Les Nations Unies n'ont plus de rôle, c'est l'OTAN qui va aller jouer son rôle en ex-Yougoslavie ou ailleurs. On a confié même à la CEI, c'est-à-dire aux troupes russes, le soin d'aller en Géorgie, en Abkhazie, Ossétie du Sud, Tadjikistan. Et aujourd'hui, c'est l'un des éléments de difficulté qu'on rencontre. Et on avait demandé d'ailleurs aux Nigériens et aux forces de la CEDEAO d'être en Afrique. Très très vite, les pays africains, notamment au sein du Conseil de sécurité, sont venus me voir en disant... Nous sommes incapables, nous-mêmes, d'organiser notre maintien de la paix. On peut en traiter politiquement au sein de l'Union africaine. On ne peut pas le mettre en place opérationnellement. Aidez-nous à permettre à ce que des casques bleus puissent se développer. En moins de 4 ans, j'ai eu à monter la première opération en République centrafricaine, en Sierra Leone, de remplacer les Nigérians, en République démocratique du Congo, et à côté, après, il y a eu Timor et le Kosovo. Donc, ces pays peuvent, au sein du Conseil de sécurité, sur des choses qui leur tiennent à cœur, essayer de forcer le mouvement. Là où il y a difficulté, c'est que si c'est un problème stratégique, d'intérêt majeur pour l'un des pays membres du Conseil de sécurité et qui refuse qu'on s'en occupe.
Avec évidemment des effets à propos de ces opérations de maintien de la paix qu'on pourrait discuter, on l'avait d'ailleurs fait ensemble à ce même micro. Mais je reviens à cette question du Conseil de sécurité. Que pèse par exemple un secrétaire général des Nations Unies face à un membre permanent du Conseil de sécurité? Est-ce qu'il est en capacité de faire basculer des choses? Est-ce qu'il y a eu des moments où par exemple un secrétaire général des Nations Unies a pu empêcher un train de sanctions, a pu même, pourquoi pas, y être à l'origine? Qu'est-ce qu'on pèse quand on est secrétaire général des Nations Unies face aux permanents?
Tout dépend de la personnalité, de son rôle, du moment. Il est clair que moi j'ai vécu Kofi Annan, qui a été là tout d'abord parce que les États-Unis trouvaient que Boutros Ghali avait pris trop de pouvoir et trop d'influence. Donc on a essayé de l'écarter. Kofi Annan, lorsqu'il est arrivé, un an après, il y a eu la première affaire en Irak. Et il a évité, je veux dire que ça a suscité un certain nombre de tensions, le premier conflit en Irak en 97. Donc, il y a une possibilité de s'y opposer, de faire des propositions sur le maintien de la paix. Il a proposé des réformes, il faut proposer des réformes de l'Organisation des Nations Unies. Il faut à tout prix, naturellement, se concerter et discuter avec les grands, les membres permanents. Mais il y a une marge de manœuvre qui existe. Elle est faible. Le dernier mot est toujours celui des grands États, et notamment du P5, sur les questions de paix et de sécurité.
Guillaume Devin, vous êtes d'accord sur cette question de l'importance de la personnalité du secrétaire général des Nations Unies, où au fond la fonction et les messages priment assez largement sur les figures elles-mêmes?
La personnalité est sans aucun doute très importante. Je suis un peu gêné par votre question. Au fond, si jamais je me plaçais dans un autre domaine, quel est le poids d'un secrétaire général d'une fédération professionnelle par rapport aux industries qui la composent ? La réponse, elle est relativement évidente. Le secrétaire général, il a un pouvoir d'organisation, d'orientation des débats, il peut influencer à la marge, mais fondamentalement, ce sont les industries composant la fédération qui décident. De même, on pourrait faire la même remarque sur une entreprise et les actionnaires, etc. Donc, on est un peu dans la même situation.
Je vais formuler la question autrement, oui. Guillaume Devin. Est-ce qu'on n'a pas eu parfois le sentiment dans l'histoire des Nations Unies que précisément les pays ont plutôt cherché à avoir des personnalités qui ne prenaient pas trop de place.
Oui, c'est vrai que les pays puissants essayent d'avoir des secrétaires généraux qui sont plus des secrétaires que des généraux. C'est vrai. Mais ça n'a pas toujours fonctionné comme ça. Et puis certains se sont émancipés. Je veux dire, même Boutros Ghali, en particulier, qui a été refusé pour un deuxième mandat par les États-Unis, a montré qu'il pouvait avoir de la poigne et une certaine indépendance. De même Kofi Annan, au moment du conflit de l'intervention américaine en Irak en 2003.
Sauf que ceux qui s'émancipent justement et qui montrent un peu trop de volontarisme, parfois, ça se passe pas toujours bien. Je vais vous faire écoutez une voix, on va voir si vous la reconnaissez.
You will recall that the General Assembly of the United Nations asked me, in the name of the United Nations and by the means most appropriate in my judgment, to seek the release of the 11 United States flyers and all other captured personnel of the United
Bernard
Nations.
Bernard Millet, vous reconnaissez? C'est Dag Hammarskjöld, le deuxième secrétaire général des Nations Unies, 1953-1961. Il est décédé en septembre 1961 dans un accident d'avion au-dessus de la Rhodésie du Nord, l'actuelle Zambie, alors qu'il venait dans le cadre d'une mission pour mettre un terme à la crise congolaise. Visiblement, son volontarisme précisément dans le dossier a déplu à un certain nombre de pays, la Belgique par exemple, la France. Sa mort à l'époque avait créé une très vive émotion et si la commission onusienne à l'époque avait conclu un verdict ouvert, c'était ça la formule, un verdict ouvert, faute de preuves tangibles, il y a un certain nombre d'éléments qui laissent imaginer qu'il aurait pu être assassiné avec le concours d'États qui y avaient peut-être intérêt. Je recite,
il y a toujours des enquêtes en cours.
La Belgique et la France, il y a des enquêtes, et d'ailleurs un très bon livre est paru cette année sur le sujet. Ils ont tué Monsieur H de Morin-Picard qui était paru au Seuil cette année. Alors, je reformule l'hypothèse que je formulais avec Guillaume Devin. Est-ce que effectivement, il n'y a pas cette tendance du côté des pays à choisir des secrétaires généraux qui ne prennent pas trop de place et lorsqu'ils cherchent à en prendre trop, ça pose problème.
Mais c'est tout à fait le cas. Kofi Annan a été encensé au départ et après la deuxième guerre d'Irak, George Bush Jr. a tout fait pour essayer de le discréditer, mettant en cause, y compris son fils, pour des histoires qui ne tenaient pas debout, mais on voit bien que la pression est forte sur eux. Mais Kofi avait une formule. Il disait « secrétaire général », en anglais c'est « SG ». Et c'est exactement le même mot que « scapegoat », bouc émissaire en français. Donc il disait le secrétaire général là pour organiser, mais il est là aussi pour être le bouc émissaire lorsque les choses vont mal. Mais c'est la règle du jeu, il faut le savoir. Dans le même temps, le nom des secrétaires généraux qui restent, vous avez évoqué Dag Hammarskjöld, c'est ceux qui ont tenté d'exister sur la scène internationale.
Deux petites observations. D'abord, l'enquête sur Hammarskjöld a été relancée par le nouveau secrétaire général. Et c'est le point 131, vous voyez comment on est précis. C'est le point 131 de l'ordre du jour dont nous avons parlé tout à l'heure. C'est de faire un peu le bilan des enquêtes, puisque plusieurs historiens, personnalités indépendantes, ont été sollicités pour rassembler les archives et voir ce qu'on pouvait en tirer.
Mais alors attendez, est-ce qu'on peut imaginer, Guillaume Devin, que cette enquête aboutisse, qu'on reconnaisse une forme de responsabilité d'un certain nombre d'États
et avec
des conséquences politiques? Non mais parce que c'est ça dont il est question.
Oui, je sais bien, je ne sais pas si ça ira jusqu'à des mises en cause et des responsabilités, mais enfin ça peut procéder d'un processus de naming and shaming, c'est-à-dire que tout de même, si jamais il y a des évidences qui apparaissent, certains États risquent tout de même d'être très très embarrassés.
Bernard Millet, est-ce que ça peut aller au bout ou est-ce que vous pensez que c'est une maison qui sait parfaitement contenir les scandales quand il y en a? Et il y en a eu.
Aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile de contenir un scandale parce que il y a des lanceurs d'alerte et on le voit sur tout un tas de sujets. Lorsqu'il se passe dans les opérations de maintien de la paix, il y a des manquements, des exactions, elles sont relevées. Lorsque le système fonctionne mal, les attaques sont fortes. Donc, si vous voulez, je ne pense pas dans cette affaire. Ce qui va être difficile, c'est à 60 ans de distance de retrouver, 70 ans de retrouver des causes parfaites. Hein. Donc il va y avoir sans doute des indices, l'idée que c'est naturel ou pas naturel. Que ce soit effacé, non. Kofi Annan, on l'a bien vu, là encore, avait accepté des missions d'enquête sur le Rwanda et sur Srebrenica, dans lesquelles lui-même, alors qu'il était secrétaire général, a été mis en cause ouais. pour certaines choses. Donc, c'est plus difficile aujourd'hui de se dire qu'on va tout...
On est quand même dans une maison dont la culture est quand même la culture du secret. Hein. Il y a eu beaucoup de problèmes, hein. Beaucoup de problèmes au sein des OMP avec les abus sexuels.
Opération de maintien de la paix.
La résistance des Nations Unies à admettre ce qui s'est passé à Haïti avec l'épidémie du choléra, etc. Il y a eu beaucoup de problèmes et il y a beaucoup de problèmes. Ce qu'il y a, c'est que on peut espérer là, pour revenir à votre point d'introduction, que des groupes non gouvernementaux venant de la société civile, plus indépendants, plus offensifs, plus agressifs aussi, obligent l'administration à se remettre en cause.
Ouais. Alors, revenons à notre question aussi, qui est celle de ce Parlement mondial. C'est un Parlement mondial qui, aujourd'hui, aurait bien besoin d'une réforme. Ça fait d'ailleurs des décennies qu'on parle de réforme de l'ONU. Par ailleurs, on parlait tout à l'heure de la question de la représentation avec les membres permanents. Si on regarde simplement les membres permanents à l'époque de sa création, c'était plus de... En termes démographiques, par exemple, c'était la moitié du monde. Aujourd'hui, c'est à peine 30% du monde, Chine compris. En termes économiques, c'était largement plus que la moitié de l'économie mondiale. Aujourd'hui, c'est nettement moins. Donc, on voit bien qu'il va falloir répartir les choses. Mettons de côté pour l'instant, Bernard Miel, les réticences. Mais d'un point de vue purement théorique, qu'est-ce qu'il faudrait changer pour que ça soit plus équitable?
Déjà, vous l'avez dit, il faut que on est passé globalement de 55 ou 56 États à 195. Donc, on voit bien que le système... Mais le Conseil de sécurité a déjà changé. Il a commencé à 9, passé à 12, il est à 15 aujourd'hui.
Et il est question qu'on le passe à 25 peut-être.
24, etc. Donc, tout le problème de ces organisations, c'est toujours le couple. On l'évoquait tout à l'heure, légitimité, efficacité. Donc, il faut trouver un juste équilibre aujourd'hui qui permette de mieux refléter ce qu'est la situation géopolitique que des pays comme l'Inde, le Japon, l'Allemagne, l'Afrique du Sud, le Brésil.
Alors comment on fait pour redonner du poids aux pays que vous venez de citer à l'instant? On élargit le club du Conseil de sécurité en mettant des membres non permanents et on leur donne une place de membres non permanents et ça suffit, terminé.
L'élargissement est aujourd'hui acquise sur le plan des principes. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il faudra sans doute aller à 24. Au-delà de 24, ça devient un peu trop compliqué. Le problème qui s'est posé, c'est de savoir quels pays vont devenir permanents. Et là, dans chaque région du globe, vous avez des rivalités qui existent. Pour trouver deux pays dans chaque continent, ou au moins un pays qui soit membre permanent, vous allez en Amérique latine devoir trancher entre le Brésil, l'Argentine, le Mexique. Peut-être la Colombie. Lorsque vous allez en Asie, vous allez avoir tranché entre l'Inde, l'Indonésie, le Pakistan, qui va sans doute pas beaucoup apprécier que ce soit l'Inde, etc. Si vous allez en Afrique, entre l'Algérie, l'Égypte, le Nigeria et l'Afrique du Sud, là encore, il faut trancher. Jusqu'à présent, problèmes internes à chacune des régions n'ont pas permis de trouver le... Deuxième problème qui se pose, c'est le fameux droit de veto. Parce qu'il peut y avoir des membres permanents, droit de veto ou pas. On voit bien aujourd'hui que le droit de veto à 5 a, pendant des périodes longues, paralysé le Conseil de sécurité du fait de la guerre froide. élargir le droit de veto à plus de membres, ça risque d'être un facteur de blocage supplémentaire. Donc là, il y a beaucoup d'interrogations là-dessus.
Guillaume Devin, sur cette réforme nécessaire de l'ONU, à la fois sur le plan théorique et à la fois concrètement, les problèmes que ça pose.
Plan théorique, je ne sais pas. Le Conseil de sécurité a tout de même beaucoup changé. Les pratiques du Conseil de sécurité ont beaucoup changé. Le travail du Conseil de sécurité a beaucoup changé. Pratiquement tous les pays qui sont intéressés à un différend ou à un problème sont invités au Conseil de sécurité. Ça ne veut pas dire que pour autant la représentativité a été élargie. On reste à 15 avec les 5 permanents. Mais tout de même, le travail, l'ouverture du Conseil de sécurité n'est pas comparable aujourd'hui à ce qu'il était il y a 40 ans. D'autre part, on peut se demander si la voie de la réforme n'est pas aussi dans l'élargissement des missions du Conseil de sécurité. Est-ce que aujourd'hui, où tous les problèmes sont complètement interdépendants et enchevêtrés, du politique à l'économique, au social, etc., il faudrait pas élargir les missions du Conseil de sécurité et en faire un grand Conseil de sécurité économique, politique et social, hein, à même de traiter des questions qui sont à l'heure actuelle éparpillées dans des G, des G8, des G20, des G24, etc., qui finalement minent un peu la légitimité.
Vous risquez de multiplier les critiques à l'égard des décisions qui seront prises précisément sur ces nouveaux thèmes.
Non, parce que...
Les décisions qui sont prises par le Conseil de sécurité aujourd'hui sont critiquées. Il n'y en a pas une qui n'est pas critiquée.
Non, ça dépend.
Non, ça dépend pas.
Si.
Non, ça dépend pas. Il n'y en a aucune qui fait l'unanimité. Aucune.
Les décisions du Conseil de sécurité qui ne font pas l'unanimité sont des décisions qui sont la plupart du temps bloquées par un veto. Oui. Mais les décisions qui sont acceptées, c'est des décisions qui font l'unanimité. C'est des décisions qui sont globalement acceptées. Et de toute façon, l'élargissement de ces missions dont je parlais s'accompagnerait d'un élargissement du Conseil lui-même aussi, puisque vous parlez de théorie. La théorie, c'est élargir la représentativité du Conseil, mais théoriquement, ce qui serait bien aussi, c'est d'élargir les missions du Conseil.
Alors justement, jusqu'où est-ce qu'on élargit? Parce que les premiers mots de la charte de 45, c'est « nous, peuple des Nations Unies ». Est-ce que là, il n'y a pas moyen de faire quelque chose? Comment est-ce qu'on pourrait remettre un peu les sociétés civiles, les peuples, au cœur des décisions qui sont prises précisément dans les Nations Unies? Est-ce qu'il y a des pistes qui sont déjà explorées? On parle d'une assemblée parlementaire des Nations Unies, par exemple. Est-ce que c'est une piste qui vous semble possiblement empruntable dans les années qui viennent, Bernard Millet?
Alors, tout dépend de ce qu'on entend assemblée parlementaire. Il y a aujourd'hui des assemblées parlementaires qui existent, qui sont des représentants de chaque parlement national. Donc on est dans du second degré. Est-ce que c'est une représentation de ce que vous appelez la société civile, c'est-à-dire l'ensemble des ONG, ou pas? Sans doute pas. En revanche, vous avez des formes alors plus pratiques d'implication de la société civile. J'évoquais Rio tout à l'heure, mais la manière dont la COP21 et l'accord de Paris a été négocié, l'implication là des sociétés civiles, des ONG, a été très forte, avec une possibilité d'influence dans chacun de leurs pays auprès des gouvernements, parce que c'est comme ça que ça se passe, pour que le relais aboutisse au niveau des États qui sont, au bout du compte, les seuls décisionnaires.
Parce que, Guillaume Devin, cette piste-là, elle est intéressante. Je disais tout à l'heure que toutes les décisions du Conseil de sécurité sont critiquées. Elles le sont au sens où tous les pays qui en sont exclus de ce Conseil de sécurité critiquent le simple fait qu'ils ne participent pas à ces décisions. Rien que pour cela. Donc, peut-être que cette Assemblée parlementaire des Nations Unies, elle permettrait précisément d'échapper à cette difficulté de réforme. On donne un certain nombre de... Plutôt que d'élargir les prérogatives du Conseil, mettons en place cette Assemblée parlementaire des Nations Unies, on lui donne un certain périmètre, on élargit peu à peu le périmètre, précisément on transfère les prérogatives du Conseil vers cette Assemblée parlementaire, et là, on peut peut-être avancer. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une proposition, hein, Guillaume Devin, qui sera probablement pas écoutée, par ailleurs.
Oui. L'un n'empêche pas l'autre. L'élargissement de la représentativité du Conseil et de ses missions n'empêche pas le fait que l'Assemblée parlementaire, l'Assemblée, plus exactement, des Nations Unies, devienne plus inclusive. Alors, premièrement, il n'y a pas de cloisonnement total, tout de même, entre le monde intergouvernemental, qu'il s'agisse du Conseil de sécurité ou de l'Assemblée, et le monde non gouvernemental. Il y a quand même quelques passerelles. Je vous l'accorde, ce sont des passerelles qui sont pragmatiques, qui sont assez informelles, mais le Conseil de sécurité peut inviter des ONG pour des auditions sur certains dossiers, etc. Et l'Assemblée générale...
Elle le fait un peu.
Et elle le fait, oui, elle le fait. C'est ce qu'on appelle la formule ARIA, d'un nom d'un diplomate latino-américain. Bon, mais... c'est également le cas au sein de l'Assemblée. Alors, c'est vrai qu'il y a une résistance de la part des États à associer de manière plus inclusive le monde non gouvernemental à leur délibération. Et là, il y a probablement une piste de réforme qui est importante, à la fois du côté du Conseil de sécurité et du côté de l'Assemblée générale des Nations Unies. C'est-à-dire faire en sorte que certaines organisations non gouvernementales, dotées d'un statut qui a été reconnu auprès du Conseil économique et social des Nations Unies, puissent être, par exemple, des observateurs, voire même intervenir, c'est-à-dire deuxième niveau ou troisième niveau. Alors, évidemment, le troisième niveau, c'est celui de l'Assemblée parlementaire, participer au processus de décision.
Bernard Minier.
Vous évoquiez tout à l'heure, enfin, Guillaume Devin vient d'évoquer les ONG. Vous avez actuellement à Genève la session du Conseil des droits de l'homme. Les ONG sont participantes et interviennent sur tous les sujets. Sur tous les sujets, elles ont un droit de parole, elles sont très actives. Mais au sein du Conseil économique et social...
Mais elles interviennent comme expertes.
Non, pour faire valoir des points de vue politiques, dénoncer des situations, faire des propositions, elles sont actives. Quand vous êtes la FIDH, l'Amnesty, c'est pas simplement du témoignage que vous faites, c'est la volonté de faire avancer ou de dénoncer. Au Conseil économique et social, qui est l'un des éléments importants, qui, hélas, de mon point de vue, n'a jamais trouvé son équilibre et fonctionne toujours mal. Il y a une volonté d'essayer de coordonner l'ensemble des activités dans ce domaine-là et des institutions spécialisées. Il y a 57 membres, si je ne m'abuse, ou 65 peut-être maintenant. On n'arrive pas à trouver un équilibre, à les faire fonctionner, parce que globalement... Et ça, c'est un problème des Nations Unies. On est soumis à la fois aux réalités géopolitiques, mais aux réalités, je dirais, idéologiques. Et à partir du début des années 80, le maître mot ayant été dérégulation, désétatisation et désinternationalisation et privatisation, les organisations internationales traitant des questions économiques et sociales, notamment les Nations Unies, ont été mises à l'écart. Donc on a un problème d'une organisation qui aurait dû jouer un rôle important, dont on estime qu'il serait important, qu'il a été au moment de l'émergence des pays du Sud, au moment du dialogue Nord-Sud, mais qui aujourd'hui ne fonctionne plus. Donc ça, c'est un manque qui est criant aujourd'hui sur la scène internationale dans toute la dimension économique et sociale, et on parle jamais de cette dimension économique et sociale lorsqu'on parle des Nations Unies, on ne parle que de paix et de sécurité.
Vous on ne parle pas d'économie et de sociale. Voilà. Guillaume Devin, vous vouliez réagir avant de retrouver Chloé Morel et parler de quelques grands discours d'Assemblée générale des Nations Unies.
Non, mais vous comprenez bien qu'un grand nombre d'États ne veulent pas voir leur société siéger dans une assemblée ou dans une autre instance des Nations Unies. Il y a un comité. On ne va pas rentrer trop dans ces détails, mais il y a un comité des ONG, c'est-à-dire un comité qui filtre les ONG et qui leur attribue ou non le statut dont j'ai parlé tout à l'heure. Dans ce comité, on retrouve pratiquement toujours les mêmes États, la Russie, le Pakistan, l'Inde, Israël, la Chine. Bon, alors vous comprenez que ces États-là n'ont pas tellement envie de voir arriver des ONG indépendantes et ils favorisent ce qu'on appelle les GONGOs, les Governmental Non-Governmental Organizations, c'est-à-dire des organisations qui sont à leurs mains. C'est un vrai problème, ça. La place de la société civile, c'est un enjeu absolument fondamental.
Et comment on peut améliorer les choses, justement?
Comment on peut améliorer les choses?
Amener plus de transparence.
Avec des mobilisations à la fois des États qui souhaitent ouvrir les Nations Unies dans un sens plus démocratique, et puis des mobilisations citoyennes de ces sociétés dont vous parliez et dont vous nous faisiez écouter les échos en début d'émission.
Bernard Millet, encore un mot?
C'est tout à fait ça. Et avec tout ce que ça peut représenter de médiatisation haute, mais Greta Thunberg, c'est ça. c'est la société civile ou la jeunesse qui se réveille pour faire avancer un dossier. Et c'est une très bonne chose qu'il puisse y avoir ces pressions. Pendant, alors c'était y compris la presse, puisqu'on ici on dans une peut avoir joué un rôle important sur toutes les questions humanitaires ou les questions des droits de l'homme, la presse a joué un rôle majeur pour mobiliser les Nations Unies et faire en sorte que par rapport aux réfugiés, par rapport aux drames humanitaires ou par rapport aux violations des droits de l'homme, les gouvernements se sont sentis dans l'obligation de faire quelque chose.
On est avec vous Bernard Millet et vous Guillaume Devin dans cette série consacrée au Parlement à la renverse, ONU, l'Assemblée des Nations Unies a-t-elle une voix? On va parler en tout cas de quelques grandes voix qui ont marqué l'histoire évidemment des Nations Unies.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Je viens en ces lieux vous apporter le salut fraternel d'un pays de 274 000 km² où 7 millions d'enfants, de femmes et d'hommes refusent désormais de mourir d'ignorance, de faim et de soif tout en n'arrivant pas à vivre véritablement depuis un quart de siècle d'existence comme État souverain siégeant à l'ONU. Je viens à cette 39e session vous parler au nom d'un peuple qui, sur la terre de ses ancêtres, a choisi dorénavant de s'affirmer et de s'assumer dans son histoire, dans ses aspects positifs comme dans ses aspects négatifs, sans complexe aucun.
Voilà, extrait donc du discours de Thomas Sankara, simple capitaine devenu président qui vient de rebaptiser son pays anciennement Haute-Volta en Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Bonjour Chloé Morel.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes historienne, chercheuse associée à l'Institut d'Histoire Moderne et Contemporaine. Vous avez écrit un certain nombre d'ouvrages sur les Nations Unies, notamment l'ONU au fil de ses dirigeants qui étaient parus aux éditions du Croquant. Et vous préparez en ce moment même un ouvrage précisément sur les grands discours qui ont été prononcés à la tribune de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Quand il se présente précisément à cette tribune, Thomas Sankara, alors évidemment dans son pays, il jouit déjà d'une popularité absolument immense, mais c'est vrai que ce discours va lui donner une nouvelle dimension et c'est probablement aussi ce discours-là qui va le transformer en véritable icône. C'est ce discours absolument flamboyant qui va y participer. Vous dites à propos de ce discours, Chloé Morel, qu'il montre bien aussi ce que cette tribune de l'Assemblée Générale des Nations Unies représente à cette époque-là pour des petits pays, pour des pays du tiers-monde, à savoir une formidable tribune, ce qui était quand même assez rare à l'époque.
C'est vrai, voilà, parce que l'Assemblée générale de l'ONU, c'est un espace démocratique où chaque État a une voix. Et pour les petits pays, pour les pays du tiers-monde à l'époque, les pays qui se sont groupés dans le groupe des 77, par opposition plus tard au G7, les pays du Sud, c'est vraiment un espace où ils peuvent s'exprimer et se faire entendre sur la scène internationale. Mmh. Alors effectivement, ce discours de Sankara, où il apparaît en costume militaire avec son béret, c'est un discours où il peut montrer son charisme et il se présente en porte-parole du grand peuple des déshérités, comme il le dit, et il dénonce le néocolonialisme, de même que quelques années avant lui, en 1960, Patrice Lumumba avait fait un discours aussi où il dénonçait les pays colonisateurs, ex-colonisateurs comme la Belgique, donc il y avait toute une série de pays du tiers-monde qui ont pu se présenter par le biais de leurs leaders et s'exprimer, et ça c'était très important pour eux, et ce l'est toujours.
Mais est-ce que précisément cette virulence à l'égard des pays occidentaux, de l'impérialisme américain, est-ce que d'une certaine manière ça ne va pas lui coûter la défaillance pour le moins des pays occidentaux? Et parce qu'il faut rappeler que Thomas Sankara a été assassiné, et que si ce n'est pas évidemment du fait des pays occidentaux, peut-être qu'il n'a pas eu le soutien qu'il aurait pu avoir des pays, et notamment de la France. Est-ce que c'est pas aussi ça qui va payer?
C'est vrai, peut-être, on a souvent dit que ces discours qui étaient très enflammés, les discours de Sankara, et même virulents, même accusateurs, ont pu précipiter son assassinat. Et d'ailleurs, à la tribune de l'ONU, souvent, les discours, ils pouvaient être controversés, porteurs de polémiques, comme je pense aussi au discours de Yasser Arafat, quand il s'est présenté avec son célèbre kéfié en 1974. Et il s'est présenté en porteur de paix, mais il a aussi dit qu'il portait un revolver, et il a dit « ne laissez pas le rameau d'olivier tomber de ma main pour que je prenne le revolver ». Il a dénoncé le sionisme, et donc c'était des discours qui étaient très polémiques, et ça c'était très passionné à l'Assemblée Générale.
Autre séquence évidemment mythique, Chloé Morel, dans l'histoire des assemblées générales des Nations Unies, cet épisode de la chaussure de Khrouchtchev que le leader soviétique aurait utilisé pour frapper son pupitre pour protester contre le président philippin qui venait d'accuser l'URSS d'ingérence dans les affaires des pays de l'Est. Alors, le geste a été rapporté à l'époque par des journalistes, et notamment, je crois, le journaliste de l'AFP, mais pas capté par les caméras. Peu importe, cet épisode, il est devenu mythique et il est resté gravé dans l'esprit des dirigeants occidentaux. Ça a participé à la construction de l'image de Khrouchtchev par les Occidentaux.
L'image de Khrouchtchev avec sa chaussure avec laquelle il tape pour se faire entendre à la tribune. D'ailleurs, on lui a coupé son microphone pour l'empêcher de parler parce qu'il il voulait prendre plus la parole que ce qu'on voulait bien lui donner pour répondre à aux Philippins qui critiquaient l'absorption par l'URSS des pays d'Europe de l'Est. Ça, tout ça, ça fait partie du mythe de l'image de l'Assemblée générale de l'ONU qui est une arène importante aussi bien pour les pays du Sud que pour les grandes puissances, puisqu'il y a aussi, donc on disait Khrouchtchev, Kennedy à l'époque qui s'est exprimé, des chefs d'État comme Salvador Allende en 1972, qui a dénoncé l'emprise des multinationales sur les États, sur la démocratie, mais aussi quelques femmes, parce que là on a parlé de beaucoup d'hommes, mais il y a aussi quelques femmes, comme par exemple la chanteuse sud-africaine Myriam Makeba en 1963, qui a fait un vibrant discours contre l'apartheid.
Qui lui a d'ailleurs valu de perdre sa nationalité sud-africaine, je crois, à l'époque.
Voilà. Ouais. Donc parfois, ces discours, c'est pas juste des paroles en l'air, parfois, ça a des conséquences. Elle a été immédiatement déchue de sa citoyenneté par le gouvernement de l'Afrique du Sud qui pratiquait l'apartheid à cette époque. Donc c'était des discours très courageux, tout cela.
Alors, autre discours marquant, celui de Fidel Castro.
A su señoría el delegado de los Estados Unidos, aprovecho la oportunidad para decirle que hay muchas madres en los campos de Cuba y muchas madres en Cuba esperando todavía su telegrama de condolencia por los hijos que les asesinaron las bombas de los Estados Unidos.
On est en septembre 1960, le plus long discours de l'histoire de l'Assemblée générale des Nations Unies, plus de 4h29, je crois, de mémoire, pendant lesquelles il va s'en prendre. 4h30, voilà, c'est ça. Il va s'en prendre évidemment à l'impérialisme américain, un discours qui s'ouvre avec beaucoup d'humour, puisque le leader cubain explique qu'il a la réputation de parler longtemps, mais qu'il va faire tout son possible pour être bref. Vous nous racontez le contexte de cette prise de parole à laquelle il n'était pas invité par ailleurs.
Oui, c'est vrai. Alors déjà, rien que son arrivée à New York sur le sol américain a été très mouvementée, puisque dans l'hôtel où il devait arriver, près de Central Park, on a voulu le contrôler. Les États-Unis ont voulu limiter ses entrées et sorties. Il a menacé d'aller dormir à la Belle Étoile dans Central Park. Et finalement, il est allé loger, geste symbolique, à Harlem, un quartier noir. Il a mangé, pendant les intervalles de l'Assemblée générale, il a mangé dans la cantine du personnel afro-américain du bâtiment, parce que Eisenhower ne l'avait pas invité à manger. Donc c'était vraiment une visite vraiment très très flamboyante de sa part, c'était symbolique. Et il a parlé très longtemps, donc presque 4h30, et ça a beaucoup marqué les esprits, ça a un peu bouleversé aussi le déroulé de la session.
Chloé Morel, vous êtes historienne, les historiens c'est toujours très bien pour éclairer le présent. Regardez un petit peu les discours plus récents, l'année dernière Emmanuel Macron avait prononcé son deuxième discours à la tribune de l'Assemblée générale des Nations Unies. Il s'y était présenté comme le porte-parole des pays qui respectent l'accord de Paris sur le climat. Donald Trump avait décidé de s'en retirer. Il avait défendu aussi le multilatéralisme. C'était peut-être un discours d'ailleurs un peu plus offensif que le premier, dans lequel, pour le coup, il avait parlé beaucoup de la question de la liberté, des droits de l'homme, de la place singulière de la France dans ce domaine, mais peut-être un discours un tout petit peu plus convenu. Comment est-ce que vous jugez-vous les deux prises de parole, pour l'instant, à l'aune de cette histoire des grands discours de l'Assemblée générale des Nations Unies?
Le président Emmanuel Macron, en septembre 2018, a fait un assez long discours à l'Assemblée générale de l'ONU, où il a insisté sur l'importance de redonner de la puissance à l'ONU. Et ça, c'est important qu'un des représentants des grandes puissances dise ça, parce que l'ONU, depuis plusieurs années et même décennies, est peu à peu marginalisée par d'autres structures comme le G7 qui s'est réuni il n'y a pas longtemps à Biarritz, le club des grandes puissances, des sept grandes puissances, ou encore par par l'OTAN, qui mène des actions et se présente comme un peu l'armée du monde, alors que c'est plutôt les casques bleus, normalement, de l'ONU qui sont censés jouer ce rôle. Donc c'est important qu'il ait donné cette idée de redonner de la puissance à l'ONU. Et aussi, il a insisté sur les 780 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté dans le monde. Donc cette insistance sur les inégalités, ça c'est important aussi, venant d'un représentant des grandes puissances.
Marginalisé, dites-vous, par rapport à d'autres entités. Peut-être que cette marginalisation, elle est aussi le fruit d'une certaine impuissance des Nations Unies. On l'a beaucoup dit ces dernières années. On a l'impression, alors Chloé Morel, on parle depuis tout à l'heure d'un certain nombre de grands discours qui ont marqué l'histoire des Nations Unies. En même temps, on peut s'interroger sur les effets précisément de ces discours. Est-ce qu'ils ont produit, pour certains en tout cas, des actes politiques ?
En fait, c'est plutôt, je dirais, dans la mémoire de ces discours, des grandes prises de parole, des phrases enflammées, des grandes idées. Sinon, les résolutions de l'Assemblée générale de l'ONU, donc il y en a dans plusieurs domaines, puisqu'il y a plusieurs commissions à l'Assemblée de l'ONU. Il y en a qui s'occupent du désarmement, c'est la première commission. La troisième commission, c'est des affaires humanitaires, sociales et culturelles. Mais il n'y a pas vraiment, l'ONU n'a pas vraiment de moyens de sanctions très fort pour faire appliquer ces résolutions de l'Assemblée générale. Et puis, comme vous disiez, il y a un peu une paralysie de l'ONU, sinon pour l'autre Assemblée, le Conseil de sécurité, avec le veto. Donc c'est vrai qu'il y a une sorte de paralysie d'un côté, et aussi le fait que l'ONU, l'Assemblée générale, n'a pas de pouvoir de sanction, vraiment, de faire appliquer par la force, pouvoir contraignant pour ces résolutions.
Voilà justement Myriam Makeba, là qu'on entend à l'instant, qui est l'une des rares femmes précisément à avoir fait un discours à l'Assemblée Générale des Nations Unies. Merci beaucoup à vous Chloé Morel de nous avoir éclairé sur ces quelques grands discours, la force du discours évidemment. Je rappellerai donc l'ONU au fil de ses dirigeants qui était paru aux éditions du Croquant et puis un livre en préparation sur le sujet justement sur ces grands discours. Merci beaucoup à nos deux invités ici en plateau. Guillaume Devin, grand merci d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes auteur notamment de sociologie des relations internationales mais que vous préparez, il va falloir attendre encore quelques semaine, un ouvrage, l'Assemblée Générale des Nations Unies, une institution politique mondiale, et c'est vrai qu'on s'intéresse peut-être trop peu à l'Assemblée Générale des Nations Unies et trop souvent au Conseil de Sécurité. Merci Bernard Millet également d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes président de l'Association Française des Nations Unies, que vous aviez été secrétaire général adjoint de l'ONU au maintien de la paix de 97 à 2000 à l'époque de Kofi Annan. Merci infiniment à tous les deux. 11h presque 53 minutes, l'heure pour nous de retrouver Brice Couturier, son tour du monde des idées.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice. Bonjour Florian. Et vous parlez aussi, vous, de Parlement. Pour faire obstacle aux démagogues, faut-il remettre les parlements au centre du jeu ? Voilà la question.
Face à la marée populiste, renforcer les garde-fous, mieux filtrer l'expression de la volonté populaire, et ben c'est ce que suggèrent en ce moment la plupart des penseurs libéraux. Ils ont toujours été sourdement hostiles à la notion de souveraineté populaire. Ce qui leur importe, c'est de limiter la portée et l'intensité du pouvoir, quel que soit son détenteur attitré. Or, un pouvoir qui se réclame du peuple lui-même est porté à réclamer un pouvoir sans limite. C'est ce qui explique leur préférence pour la démocratie représentative. Le fait de déléguer le pouvoir, de décider à des assemblées pluralistes composées d'élus libres de leur choix, permettrait de modérer les passions populaires, d'aboutir à des solutions raisonnables. Ces libéraux ont en horreur les leaders charismatiques qui prétendent parler directement au peuple et traduire sa volonté sans médiation. Ils se méfient de tout ce qui peut ressembler à la démocratie directe et c'est pourquoi ils sont très réticents de manière générale au référendum. Dans certains pays comme la France et l'Allemagne, où cette procédure a été utilisée dans l'histoire de manière plébiscitaire par des dictateurs ou des autocrates, ces réserves, ma foi, sont compréhensibles. Et il faut convenir que le résultat d'un certain nombre de référendums récents confirme cette méfiance. On pense bien sûr au pari stupide pris par David Cameron sur le Brexit. Cette promesse de référendum procédait d'un pur calcul politicien et le leader conservateur se faisait fort de passer haut la main l'obstacle. Mais n'oublions pas que la même année, les Colombiens ont rejeté par référendum l'accord de paix conclu par le gouvernement avec les FARC. On impute généralement à des conditions météorologiques désastreuses la courte victoire du non dans ce pays. À quoi tient donc la paix ? Au même moment, Viktor Orban faisait voter par référendum, là encore, le refus de son pays d'accueillir le moindre immigré ayant trouvé refuge en Europe. 98% d'approbation. Et l'année suivante, Erdogan se faisait confier, toujours par référendum, la totalité des pouvoirs, chef de l'État, chef du gouvernement, chef des armées, chef du groupe parlementaire du parti au pouvoir. Dans une étude récemment publiée par la Brookings, deux chercheurs ont montré comment des pouvoirs aspirant au renforcement de leurs prérogatives ont utilisé la procédure du référendum pour contourner les obstacles légaux mis à leurs prétentions. Et ils lui attribuent un rôle déterminant dans le déclin des institutions démocratiques d'un certain nombre de pays.
Mais Brice, pourquoi faudrait-il se méfier du référendum ? Il est assez paradoxal de décréter que rendre la parole au peuple serait contraire à la démocratie.
Selon Adam Quinn, qui enseigne la politique internationale à l'université de Birmingham, il y a au moins deux bonnes raisons de se méfier du référendum. Primo, il est trop facile pour les démagogues de tromper les lecteurs peu informés des conséquences de son vote avec des fausses promesses. Voyez le Brexit. Deuxio, les campagnes référendaires, dans la mesure où la consultation porte généralement sur des sujets brûlants, ont des effets désastreux sur l'opinion publique. Ils produisent des divisions trop tranchées entre partisans du oui et partisans du non. Or, c'est ce type de polarisation extrême, c'est de ce type de polarisation extrême que procèdent ces politiciens très improbables qui se sont fait élire en dénonçant la classe politique. Prompt à dénoncer la lenteur et l'indécision des parlements, les Trump, les Bolsonaro ou les Salvini incarnent tout ce que détestent les libéraux. Le pouvoir personnel, l'ascendant charismatique sur les foules, le césarisme. Face à ces derniers, il est temps, disent-ils, de défendre, oui, de renforcer les parlements. Mais ce réflexe libéral, consistant à réinstaller des garde-barrières, procède, selon le politologue Jan Werner Müller, que je cite, d'une lecture fausse de l'histoire récente. Si Trump, malgré son incompétence évidente, est au pouvoir à Washington, dit-il, c'est que le Parti républicain l'a bien voulu. En fin de compte, si des agitateurs comme Nigel Farage sont parvenus à persuader une majorité d'électeurs britanniques qu'il serait mieux hors de l'Union européenne, eh bien une partie des élites l'y a bien aidé par sa sottise. Alors certes, poursuit Müller, le référendum est une arme maintes fois utilisée par les leaders populistes contre la démocratie elle-même, mais leur tort n'est pas de confier la décision à la majorité des électeurs, leur tort, c'est celui des dictateurs ou des autocrates de définir par avance qui fait partie du vrai peuple et ce qu'est sa volonté, à savoir bien sûr la leur. Mais ce n'est pas le seul usage possible du référendum et Müller d'en suggérer une autre. Puisqu'il se révèle très difficile d'unir les différents partis d'opposition en coalition face au pouvoir fort, à présent solidement installé dans un certain nombre de pays, le recours au référendum pourrait forger une unité de refus. Ce pourrait être la solution pour dégager les fameux hommes forts d'Europe centrale en particulier.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture, www.franceculture.fr. On vous retrouve la semaine prochaine, puisque comme chaque vendredi, pas de chronique à la radio, mais une chronique sur le site de France Culture. Donc on vous retrouve quand même à lundi, donc cher Brice.